qui plus est au service du gouvernement. Le roman de Russell Greenan est avant tout un roman de mœurs qui dépeint à merveille la peur d'un pays sclérosé qui n'a pas vécu de guerre venue de l'extérieur sur son territoire avant le 11 septembre et qui découvre le terrorisme dans ce qu'il a de plus affolant. Avec un peu d'imagination, vous remplacez ces terroristes par un virus et le roman prend une autre dimension plus contemporaine. Comme quoi, c'est magique le roman. Mais maintenant, place au grand Louis Armstrong. Alors, Toups, commence à jazz.
Hommage à Louis Armstrong. Little Louis, roman, par Claire Julliard, édition Le Mot et le Reste. Louis Armstrong, un nom connu dans le monde entier. En ce qui me concerne, ce nom provoque un flashback involontaire dans mes années d'enfance. Oui, j'ai eu la chance de, encore tout petit papa, pouvoir entendre la musique de cet immense monsieur de jazz. Et très régulièrement encore. Personnellement, j'ai donc deux souvenirs forts. Le gros vinyle bien épais dont le bord avait été malencontreusement cassé lors d'une manipulation hasardeuse par un enfant maladroit et malheureux, et qui était peut-être bien moi. Donc la manipulation de cet album Louis and the Good Book. Et puis aussi le souvenir du 45 tours C'est si bon et la vie en rose. Entre parenthèses, il faut que je vous dise quand même que c'est grâce à l'album Louis and the Good Book que le chanteur du Sud et du jazz, le chanteur de la Ville Rose, Claude Nougaro, trouvera sa déclaration de guerre contre le racisme dans le Negro Spiritual Go Down Moses, Let My People Go. Il mettra des paroles françaises et il l'intitulera tout simplement Armstrong. Je me permets de citer la fin de la chanson de Nougaro.
Un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Noir et blanc sont ressemblants. Comme deux gouttes d'eau.
Achevé d'imprimer en janvier 2020 par Yenua, l'imprimerie qui se trouve au numéro 50 de la rue Gutenberg, ça ne s'invente pas, dans le sud, à la Roque d'Anteron, oui, là où se déroule chaque été depuis une quarantaine d'années le fameux festival international de piano. Ce bouquin est sorti le 5 mars 2020 chez cette maison d'édition de Marseille, celle qui consacre 60% de sa production à des ouvrages qui parlent de musique et qui marque sur la tranche de ses livres les initiales MR pour le mot et le reste. Encore le sud. On va mettre ça sur le compte de la coïncidence. Eh bien, en attendant, c'est du bon boulot. Et comme dirait l'autre, pour une surprise, c'en est une bonne. Une très bonne même. Un roman dans lequel tous les faits véritables sont véridiques et ont été vérifiés. Et qui se concentre sur l'aspect le moins connu de la vie de cette légende du jazz qui est, ou qui était, mais qui est toujours, puisque une légende c'est une légende, donc c'est immortel, qui est donc Louis Armstrong. Ses années d'enfance. Louis Armstrong était connu autant pour ses incomparables qualités vocales que pour son jeu de trompette caractéristique du style du jazz des tout débuts, Ragtime et New Orleans. C'est un bouquin qui m'a immédiatement fait penser aux années d'enfance d'un écrivain du monde, comme on dirait dans certains milieux musicaux. En l'occurrence, un écrivain du Mali, né exactement comme Armstrong vers 1900 ou 1901, mais non pas à Storyville, le quartier chaud de la Nouvelle-Orléans, non, non, né à Bandiagara, en plein pays d'Ogon. De fait, quand on compare les deux enfances, les deux trajets, les deux parcours, on arrive à avoir l'impression que c'est Armstrong qui a grandi dans le tiers-monde. Et j'exagère à peine. Bon, évidemment, j'exagère, mais à peine. Juste encore, cette fameuse citation de l'écrivain ethnologue, défenseur de la tradition orale, qui était Amadou Ampateba, tirée de ses mémoires parues sous le titre « Hamkoulel, l'enfant Peul ». Ne regrette rien. Il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Cette phrase, qui est un hommage à l'école de la vie, résume en quelque sorte le parcours fabuleux de Louis Armstrong, qui a commencé par réussir à ne pas mourir, malgré tous les pièges tendus tout au long de son parcours. Il a très personnellement bien connu la misère. Il a littéralement fait tous les boulots qui étaient à sa portée, sans jamais tomber de l'autre côté de la légalité. Il aurait pu être Mac, comme certains de ses collègues, ou bandit. Il a commencé à travailler à l'âge de 5 ans, a laissé un orteil dans un accident du travail, là où des collègues ont laissé la vie, et était arrivé à l'âge d'homme et de soutien de famille pour sa mère, sa sœur et son fils adoptif, à l'âge de 15 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'atmosphère si chaleureuse qu'on ressent dans ce petit quartier du ghetto de Harlem que nous montre à voir le cinéaste Spike Lee dans son film de 1989, Do the Right Thing. Une atmosphère de village où l'avantage c'est que tout le monde connaît tout le monde et où le désavantage c'est que tout le monde connaît tout le monde. Restons sur les avantages. Tout le monde s'appelle par son surnom. On ne connaît pas forcément les vrais noms des gens et après tout, on est comme des gamins qui expliquent à leurs parents que non, ils ne savent pas le nom de famille ni l'adresse de leur nouveau copain de classe avec qui ils jouent pourtant tous les jours depuis 6 mois. Ben, si tu crois qu'on a le temps de se poser ce genre de questions, papa. Revoyez Do the Right Thing. Ce film pose la question de quelle attitude adopter pour éviter les désastres qu'engendrent inévitablement les tensions entre les conflits de classe ou de race. Évidemment, c'est pas évident. Dans Little Louis, Little Louis, c'est le roman de Claire Julliard sur Pops, alias Deeper Mouth, alias Deep, alias Satchmo. Satchmo qui, entre parenthèses, serait le diminutif de Such a Mouth, le fameux nom d'une pipe qu'elle bouche, et non pas de Satchel Mouth, bouche en forme de cartable, tout de même beaucoup moins flatteur, mais qui était pourtant la seule traduction dont on disposait quand j'étais petit, et qui était peut-être tout simplement l'expression d'une jalousie incontrôlable de la part de gens qui rageait de ne pas pouvoir empêcher cet homme d'aller vers le haut. Dans ce roman, ce n'est pas de la pizza de chez le Rital d'en face qu'on se régale, non. On se régale de plats de haricots rouges, riz et viande salée. Et Louis est un authentique gourmand. Claire Julliard fait le choix de prendre la défense de la tradition orale. Elle fait littéralement parler Louis Armstrong, comme dans les conditions d'une interview. Et ça marche plutôt bien. Même si, de temps à autre, la littérature écrite reprend le dessus avec certains mots qui sortent du langage parlé et qui sonnent étrangement dans la bouche de quelqu'un qui, essentiellement, a suivi l'école de la vie. Mais ce n'est pas grave du moment qu'on se laisse embarquer. Par contre, il y a quand même une chose qui m'a gêné, c'est la confusion très fréquente du passé simple avec l'imparfait et consternante, celle du futur simple avec le conditionnel présent. Et ça arrive assez souvent. Avis donc aux chasseurs de coquilles de la maison d'édition. Voilà. Alors, Claire Julliard fait parler Louis Armstrong dans une langue qui rappelle celle de l'écrivain congolais Alain Mabankou, ou encore celle de l'écrivain de Harlem, Chester Himes, ou encore celle, la langue du sud-africain blanc, André Brink. Bref, elle arrive à écrire comme un noir. Bravo donc pour l'exercice de style. Ceci dit, Claire Julliard n'oublie pas l'essentiel du message de Louis Armstrong. Et je salue son travail également pour cela. La ségrégation est partout. Et il l'aura combattue toute sa vie. omniprésente, mais pas centrale.
Salvatore Lombino, Bill Haley, Sidney Poitier, Glenn Ford et l'année 1955 dans un shaker. Et ça donne ça.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags on, join me home, we'll have some fun.
la musique d'un film Graines de violence de Richard Brooks, qui, au-delà d'avoir été un événement cinématographique, fait émerger pour la première fois une musique, le rock'n'roll. Mais à ton regard surpris, Julien, je vois bien que tu te demandes, oui, mais Ed McBain dans tout ça, Luc, tu m'avais promis une chronique sur un des premiers romans d'Ed McBain. Je reconnais bien là, Julien, et ton impatience et ta mémoire phénoménale. Décidément, on ne peut pas te la faire. Alors j'y viens à Ed McBain avec Graines de violence de Evan Hunter, qui a servi de scénario au susnommé film. Ton front se plisse, Julien, je le vois bien. Tu crains que je ne cherche à m'échapper d'un piège que je me serais tendu à moi-même. Je sens bien que tu veux m'aider et me souffler 87e district à l'oreille pour rafraîchir ma mémoire. J'insiste pourtant, ce sera Graines de violence de Evan Hunter et rien d'autre. Evan Hunter, alias de Salvatore Lombino, connu aussi sous le nom de Ed McBain, nous y voilà, ou encore Richard Marsden, Hunt Collins, Kurt Cannon, John Abbott, enfin ce sera tout. Pas moins de 6 identités pour un seul homme. Salvatore Lombino, quand il publie Graines de violence en 1954, il n'est pas encore Ed McBain. Il ne prendra ce pseudonyme qu'à partir de 1956, avec le premier épisode de la série 87e District, Cop Hatter, traduit en français par Du Ballet. Or donc, Graines de violence, l'un des premiers romans d'un nouveau genre, le roman de lycée et de lycée avec du public difficile. Il raconte l'histoire de Richard Dadier, Rick, jeune professeur d'anglais, de français pour nous, marié et dont la femme est enceinte, nommé dans une école de travaux manuels du Bronx. Pour nous français, ce serait l'équivalent aujourd'hui d'un lycée professionnel. Il n'a pas d'illusion, juste la conviction de vouloir bien faire son métier. Le premier jour, lors de la réunion de rentrée des professeurs, il perçoit le désenchantement de nombre de ses collègues qui sont convaincus que les écoles de travaux manuels sont des dépotoirs et qu'il vaut mieux enseigner dans des établissements normaux. Et le premier jour de classe, il comprend les difficultés auxquelles il va être confronté face à un public rebelle à toute éducation. Dans cette classe, il va s'affronter à deux élèves particuliers, Gregory Miller, un jeune noir, et Artie West, d'origine portoricaine. Mais dès le premier jour, il va éviter à une des professeurs d'être violée par un élève et va acquérir un statut de héros auprès des autres enseignants et de cible à abattre pour les élèves. Une fin de journée, alors qu'il va boire un verre avec Josh Edwards, un de ses collègues, ils vont être violemment tabassés. Ce roman est rudement salutaire. On imagine qu'Evan Hunter, Salvatore Lombino, a tiré profit de sa propre expérience d'enseignant, mais de toute évidence, pas de n'importe quel point de vue. Les choix pédagogiques de Rick Dadier sont empreints de l'essence de ce que l'on a appelé les pédagogies nouvelles. Malgré tous les obstacles, il va persister à croire qu'il est possible d'enseigner quelque chose à ses élèves, qu'ils ne sont pas définitivement perdus. Il va même connaître quelques succès. Confronté à la fin du roman à un choix cornélien, il pourrait tomber dans la facilité en faisant preuve de mansuétude suite à une agression qu'il a subie, juste pour complaire aux autres élèves, mais il ne cède pas et garde sa posture d'adulte, et il en est remercié. Ce roman est aussi salutaire parce qu'il est diablement féministe. La relation entre Rick Dadier et sa femme est étonnante, replacée dans le contexte américain des années 50, période où l'électroménager se développe à tout va, certes pour améliorer la vie des femmes, mais surtout pour les maintenir à la maison. Il suffit de voir les publicités de l'époque. Il est aussi salutaire parce qu'il traite les Afro-Américains sur un pied d'égalité avec les Blancs. C'est sans doute pourquoi dans l'adaptation cinématographique, c'est Sidney Poitier, la conscience noire par excellence, qui tient le rôle de Gregory Miller, le jeune rebelle. C'est vrai, il y a des tunnels, de longues digressions sur les réflexions introspectives de Rick Dadier qui diluent la tension. Il recourt aussi à plusieurs reprises à la technique du suspense formalisée par Alfred Hitchcock. Je vous la rappelle, le suspense, c'est quand le spectateur sait qu'il y a une bombe placée sous la table et qui va exploser, par opposition à la surprise, où la bombe explose sans que les spectateurs sachent qu'elle était là. et ça manque de finesse. Par exemple, Rick Dadier est responsable de l'organisation de la fête de Noël et dès le départ, Evan Hunter, Salvatore Lombino, nous dit qu'il n'en verra pas le résultat. Et puis la traduction. J'ai lu l'édition de 2000 publiée aux éditions Les Belles Lettres. Il est dit que la traduction de René Tanière, j'imagine la première traductrice, a été revue et corrigée. Quelle catastrophe ! Juste un exemple. Bien que l'action se passe aux États-Unis, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, le Bronx est un des boroughs, quartiers de New York. Les personnages dépensent leur argent en francs. Et ce n'est qu'un exemple. Mais tu imagines bien, Julien, qu'il y a nécessairement un mais. Et le voilà ce mais. La réflexion d'Evan Hunter Salvatore Lombino est d'une véritable modernité. La description de l'école des travaux manuels du Bronx est tellement proche de celle de nos lycées professionnels. Le comportement des élèves, si peu daté. L'engagement moral, croyance aux vertus de l'éducation, non-discrimination raciale, considération de la femme comme un individu à part entière, font de Graines de violence une lecture vivifiante et hautement recommandée. Alors, après tout ça, vous reprendrez bien un petit coup de rock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock.
Quelques idées noires en vrac. Claudine Aubrin signe chez Syros, dans la très attachante collection Souris Noire, un petit roman jeunesse qui mêle amitié trompeuse, précarité et chasse au trésor. Pour quelques grammes de plus, est l'occasion de suivre Adèle, une jeune enfant scolarisée en milieu rural, dont la mère est décédée et qui vit une histoire forte avec son père. L'arrivée impromptue dans son quart de ramassage scolaire de Mika, beau garçon ténébreux, va venir chambouler son existence. Et que dire de la découverte de torques celtes en or dans la cave de la maison ? Plus qu'un roman d'aventure, c'est bien une quête émancipatrice que propose la très chevronnée Claudine Aubrin dans une langue fluide et captivante. Pour quelques grammes de plus, de Claudine Aubrin, c'est chez Syros et c'est à partir de 11 ans. Les éditions Rimini continuent de prospecter le marché du film ancien. Elles nous proposent un très classe coffret autour de l'un des 5 westerns que Anthony Mann a tourné avec le génial James Stewart. À ses côtés, dans Les Affameurs, outre Arthur Kennedy, plein de second rôle d'importance, La Grande Évasion, L'Homme de la Plaine, Lawrence d'Arabie, et de Rocketson, éternel séducteur, géant. On notera la présence de Julie Adams, à jamais célèbre pour avoir joué dans L'étrange créature du lac noir, film fantastique du non moins génial Jack Arnold. Elle incarne ici une fille de pionnier, un temps croupière, dans un western de rédemption. Mais le film raconte surtout l'histoire d'un convoi en route pour des terres nouvelles qui se confronte à une ruée vers l'or. Au milieu de ces événements, James Stewart et Arthur Kennedy, qui sont d'anciens pilleurs sur la frontière et qui vont vivre une camaraderie forte avant que l'or ne fasse tourner la tête à l'un. Ce film d'Anthony Mann, le premier tourné par le réalisateur en Technicolor, cause également d'écologie, d'esthétique, de la nature, du capitalisme galopant et de la folie des hommes. Le désormais traditionnel coffret DVD Blu-ray propose en son intérieur un fac-similé de l'avant-scène consacré au film. Quant au supplément, il est avant tout question d'une rencontre de 40 minutes entre Mathieu Macheret, critique au quotidien Le Monde, et Bernard Benoliel, essayiste et spécialiste du cinéma. Les Affameurs d'Anthony Mann avec James Stewart chez Rimini. En attendant la sortie prévue en juin du dernier volet de la série, causons un peu d'histoire de police chez Glénat avec Vincent Brujas, Emmanuel Herzé et Damour. Il nous propose donc une série en trois volets qui s'intitule La Cagoule. Le titre est presque de circonstance. Il relate, vous l'aurez peut-être deviné, l'émergence de ce groupe d'activistes d'extrême droite au milieu des années 1930, alors que Max Dormoy est ministre de l'Intérieur. Avec Un fascisme à la française, premier de série, on découvre des personnages peu reluisants, aussi bien du côté des notables, comme Eugène Deloncle, fichue figure fascisante, fasciné par Mussolini et Franco, et qui sera abattu par la Gestapo, un comble quand on y pense, que Pierre Bonny, l'un des premiers flics médiatiques et médiatisés, à l'efficacité redoutable, mais vaincu par la corruption. De l'autre côté, le commissaire Pierre Mondanet et une quête, vaincre l'hydre de l'extrême droite. L'histoire est captivante et particulièrement bien documentée. Le dessin, lui, est très intéressant et il est bien mis en couleur. Une ambiance à la Simenon pour l'aspect de l'enquête, à laquelle on rajoute des éléments politiques. Ceux qui ont lu et apprécié le roman de Cantaloube, Requiem pour une République, qui raconte la montée du sac, devraient être tentés par cette série. La Cagoule, une série BD de 3 tomes, c'est chez Glénat. Quelques brèves noires. Les éditions du Masque sortent leur podcast hebdomadaire. L'opération, nommée « Conversation dans le noir », se fait sur le principe d'une discussion téléphonique entre l'éditrice Violaine Chivot et les auteurs de la maison. La première à s'y coller n'est autre que la Canadienne Louise May. Suivront d'autres auteurs francophones. Les podcasts sont à suivre sur les réseaux sociaux du Masque, un éditeur de circonstances. Dans un contexte contemporain scénarisé par Matt Horton. On ne sait à l'heure qu'il est qui aura la lourde tâche de reprendre le rôle du révérend prêcheur tenu magistralement par Robert Mitchum. Rappelons-nous les phalanges de l'homme d'église avec tatoué les mots « hate » et « love » entre elles. Franchement, non, on ne sait pas si c'est vraiment une bonne idée. Le Covid-19 continue de faire des ravages. Il avait survécu au geôle du dictateur Augusto Pinochet. L'écrivain chilien Luis Sepúlveda est mort du satané virus après l'avoir attrapé en Espagne. connu pour son immersion chez les Indiens Chuas et le livre qui en avait découlé, le vieux qui lisait des romans d'amour, Luis Sepúlveda était également un brillant auteur de noir. S'il ne fallait lire qu'un seul de ses romans, alors Un nom de torero, avec son personnage emblématique de Belmonte, et une histoire qui va fouiller les remugles de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Auteur reconnu pour son humanisme, Luis Sepúlveda était un pilier des éditions Métellier, chez qui il a signé près de 30 ouvrages de tout genre et tout format confondu. Enfin, lors de notre dernière émission, Luc nous avait parlé de La Route de Salina, film atypique de George Lautner, avec Rita Hayworth en femme troublée. Vous pouvez réécouter sa chronique sur le podcast de l'émission. La bande originale du film était signée Christophe. Le chanteur est lui aussi mort cette semaine, mais pas du Covid-19, ce qui, avouons-le, n'est pas vraiment une consolation. On ne pouvait pas ne pas passer à côté de cette coïncidence malheureuse. Alors, en attendant de se retrouver dans 15 jours, de laisser la place la semaine prochaine à nos amis imaginaires, on vous quitte avec le cœur triste, Christophe, et les mots bleus, limite noire. Tchuss!
Merci beaucoup.
Assise au clocher de l'église, square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile. Briserai l'instant fragile. Qu'on dit avec les yeux, je l'appellerai sans la nommer. Suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile. Plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. Je lui dirai les rendre les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Et je lui dirai, je lui dirai, tous les mots
FM.